Bien, aujourd'hui, je vous invite, sans autre forme d'introduction, à lire dans l'évangile de Marc. Au chapitre 11, vous avez le texte sous les yeux. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit « Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Je lis plus loin. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus « Maître, regarde le figuier que tu as maudit. » Il est devenu tout sec. Quelle situation bizarre. Quelle histoire étrange. L'auteur de l'évangile de Marc la tient sans doute de l'apôtre Pierre, puisque on sait que Marc a été le collaborateur de Pierre, et Pierre est directement impliqué dans cette situation, puisqu'il en est le témoin oculaire. Et la rédaction de l'évangile de Marc, on la situe entre 45 et 67 après Jésus-Christ, soit entre 15 et 35 ans après la mort de Jésus. Un autre évangile relate cet épisode, c'est l'évangile de Matthieu, mais si on s'intéresse aujourd'hui à la version de Marc, c'est parce qu'elle est plus détaillée et surtout, par sa date d'écriture, elle est plus proche de la vie de Jésus. Donc nous faisons un peu le pari de l'authenticité, de la plus grande vérité de ce récit. Alors que se passe-t-il ici? Un mouvement d'humeur de la part de Jésus? Un miracle inutile? Un coup d'éclat qui est destiné à impressionner les disciples? Ce n'est pas la saison des figues. Marc le rappelle bien. Alors à quoi bon s'acharner sur ce pauvre arbre? Qu'est-ce qui peut expliquer, dans le contexte, ce qui apparaît comme un comportement, il faut le dire, incompréhensible de la part de Jésus, d'un point de vue rationnel en tout cas? Alors on va rembobiner le film et revisualiser ce qui s'est passé la veille. La veille, ce n'est pas n'importe quel jour. C'est le jour où Jésus est entré en Jérusalem, sur un anon, alors que la foule le célébrait. Jour de triomphe apparent, jour de gloire, objectivement, comme le diraient les observateurs aujourd'hui de nos chaînes d'infos en continu. Le fameux jour des rameaux. Tous les regards braqués sur lui. Et ce même jour, Jésus ne se contente pas d'entrer au temple, là, à Jérusalem, il monte jusqu'au temple. Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Ce que nous dit Marc, c'est « il observa attentivement tout ce qui s'y passait ». Qu'y a-t-il dans ses pensées à ce moment-là? La journée, elle a quand même été plutôt agréable à vivre, en tout cas à vue humaine. Il est entouré des 12 disciples, et pas très loin de là, à Béthanie, on sait qu'il a de vrais amis. Marthe, Marie et Lazare, c'est à 3 km environ. 3 km. Alors, puisqu'il est tard, il faut bien rentrer. Voilà le contexte, la journée a été riche, elle a été chargée, mais tout semble aller plutôt bien. On va retrouver les amis à Béthanie, et comme on connaît Marthe, on va plutôt bien manger. Et puis on va se reposer en passant la nuit sur place. Sauf que le lendemain, tout bascule. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim, il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles. car ce n'était pas la saison des figues, s'adressant alors au figuier, il lui dit « Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Ce n'est pas le temps des figues, il n'y a que des feuilles. Alors, il pourrait y avoir malgré tout de ces premiers fruits de printemps, alors qui sont plus petits, il paraît qu'il y a deux saisons de figues, les fausses figues, si je puis dire, et les vraies, mais c'est des petits fruits qui en plus font mal au ventre. Et de toute façon, il n'y a même pas ça. Il n'y a même pas ça sur l'arbre. Alors, ce n'est pas la saison, c'est vrai, mais cet arbre qui est plein de feuilles, finalement, il n'annonce rien de plus pour l'été qui arrive. Il trompe son monde avec ses feuilles. On les voit de loin, ça fait chouette. D'ailleurs, Jésus s'approche. Mais en fait, ça ne protège aucun fruit. L'arbre fait illusion. Mais alors, on peut se demander encore pourquoi cette réaction si disproportionnée de Jésus, que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Moi, si je suis un disciple, à ce moment-là, on est le matin, je le rappelle, on va vers Jérusalem, je ne vais pas arrêter de me poser la question pendant les 3 kilomètres. Est-ce que le maître est en train de perdre la raison? Et pour avancer dans cette réponse à notre question, on peut poursuivre la lecture, ce que je n'ai précisément justement pas lu jusqu'à présent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Vous voyez l'image ? Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Et voilà une deuxième journée qui est bien différente de la précédente. Elle a commencé de façon étrange, avec une colère bizarre, on l'a vu, une malédiction adressée à ce pauvre figuier, et elle continue avec une colère physique, une sorte d'action dont on ne savait pas vraiment Jésus capable. Il en a décidément contre tout ce jour-là, depuis le départ de Béthanie. Et si tout ça, ça avait un sens, le même sens? Quelle signification a ce figuier? Il nous faut nous souvenir que le figuier de Béthanie tout à l'heure représente en fait bien plus que lui-même. Dans l'Ancien Testament, le figuier, comme la vigne et l'olivier, c'est un signe de prospérité quand il donne ses fruits. Manger les fruits de sa vigne et de son figuier, c'est être en quelque sorte béni. Et le figuier et la vigne accompagnent ainsi les promesses d'espoir pour Israël et pour Juda, dans la bouche des prophètes. Prenons simplement Ésaïe et Michée ici. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs et les peuples y afflueront. De nombreux peuples étrangers viendront en se disant les uns aux autres, venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites, nous suivrons ses sentiers. Car de Sion viendra la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il sera l'arbitre entre de nombreux peuples. Oui, il sera le juge de puissantes nations, même lointaines. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne qui puisse le troubler. C'est l'Éternel qui a parlé, le Seigneur des armées célestes. Donc, figuier, paix et prospérité. Mais l'inverse est aussi vrai. Quand viennent à manquer les fruits, ça veut dire, dans la bouche des prophètes, que le peuple de Juda, et là c'est Jérémie, n'est plus au rendez-vous avec Dieu. Et Jérémie s'adresse ainsi aux prêtres du temple de Jérusalem, « Je suis décidé à en finir avec eux, oracle du Seigneur, pas de raisin à la vigne, pas de figues au figuier, le feuillage est flétri, je les donne à ceux qui leur passeront dessus. » Et Jérémie leur dit ici la colère de Dieu qui les compare à un figuier flétri, sans fruit et qui sera écrasé. Et dans ce contexte, celui de la prophétie de Jérémie, il s'agit ni plus ni moins que de la destruction du temple par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Et Dieu va laisser une armée étrangère détruire le temple à cause des infidélités de son peuple. Cette assimilation du peuple d'Israël au figuier et à la vigne, on la trouve aussi chez d'autres prophètes. Voici deux exemples. J'ai trouvé Israël comme une grappe de raisin au milieu du désert, et j'ai vu vos ancêtres comme les premiers fruits sur un jeune figuier. Mais eux, lorsqu'ils sont arrivés à Baal-Péor, ils se sont consacrés à cette idole infâme et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur adoration. Ou encore en Michée, hélas, malheur à moi, parce que je ressemble à celui qui viendrait chercher des fruits en plein été, à celui qui grappille après les vendangeurs, mais il n'y a pas une grappe que l'on pourrait manger, pas une figue nouvelle dont j'ai si grande envie. Alors il faut bien s'imaginer, pas s'imaginer, mais réaliser que Jésus connaît bien ces passages. Jésus connaît parfaitement ces passages et ils sont gravés dans sa mémoire. Et on comprend à présent qu'il ne s'est pas contenté tout à l'heure de parler à un arbre. Il s'est en fait adressé symboliquement à un peuple. Le peuple d'Israël que le figuier à la sortie de Béthanie représente. Et à travers ce figuier qui n'avait rien demandé, Jésus fait passer un message. Ce qui se passe à Jérusalem en ce moment, ça n'a plus rien à voir avec le projet divin. Ce figuier qui ne donne pas de fruits et qui n'en donnera plus jamais, c'est l'image du temple vers lequel Jésus s'est dirigé ensuite pour en chasser les marchands. Voilà comment se lient ces deux épisodes. Mais quelle signification ça a pour nous ? Le temple est donc devenu lui-même stérile, sec, ce qui s'y passe n'a plus de sens. Il était prévu que les diverses nations montent au temple pour prier et louer Dieu, elles y viennent désormais pour faire du commerce, et les pèlerins s'y font vendre des pigeons à un prix prohibitif. Tout le monde ferme les yeux. Les priorités ont changé, c'est le tourisme religieux qui a pris le pas, et la fréquentation du temple n'a plus tellement de sens. Or cela, le système tourne, apparemment. L'église physique qu'est le temple a perdu sa raison première et elle est en quelque sorte, on vient de le voir à travers ces passages, le reflet de l'état intérieur du peuple. Dieu a déserté ce temple, même s'il y a du monde apparemment sur ses parvis. Il y a de l'agitation, il y a de la vie, mais quelle vie ! 40 ans plus tard, en 70 après Jésus-Christ, ce temple-là, il sera d'ailleurs détruit par les Romains, en même temps que Jérusalem sera aussi en grande partie détruite. Et ce qui est arrivé au figuier, c'est ce qui va arriver à Jérusalem. Alors pour nous, ce matin, c'est un premier repère qui s'allume. Quand nous montons vers le temple, ici, l'église évangélique baptiste de Nîmes, c'est quand même le mont des oiseaux, c'est ça, non ? C'est ça ? Nous y montons pour acquérir une connaissance toujours plus riche et plus précise de notre Père. Quand nous montons vers l'église, c'est bien à une rencontre que nous nous attendons, celle où nous allons reconnaître Dieu pour ce qu'il est et le reconnaître tous ensemble en tant que son peuple. Et ce qui compte, c'est bien d'ailleurs davantage ce que nous vivons ensemble dans cette église que le bâtiment lui-même. Alors même s'il est agréable, il est conçu d'ailleurs aussi comme un témoignage de reconnaissance à notre Dieu, mais là n'est pas l'essentiel. Et d'ailleurs, souvenons-nous de ce que dit Jésus. C'est rapporté dans Matthieu. Les disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, oui, regardez bien ça, regardez bien cela. Je vous l'assure, tout sera démoli, il ne restera pas une pierre sur une autre. Il ne reste que le mur d'enceinte aujourd'hui à Jérusalem, du temple. Voilà, quand on fait confiance à l'architecture du temple comme étant effectivement l'alpha et l'oméga de tout, Eh bien, c'est un enthousiasme architectural que Jésus va rapidement refroidir. Et c'est de vie que Jésus parle, et pas d'adoration de l'histoire et des monuments. Aussi glorieuse soit l'histoire et aussi glorieuse soient les monuments. Il le dit d'ailleurs d'une façon assez désagréable pour les tenants d'une tradition qui a fini par rendre ce temple stérile. Jésus ajouta, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ?» Et il s'adresse ici aux chefs des prêtres et aux anciens du peuple. « La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. » Ce texte, ils le connaissent tous. Voilà pourquoi je vous déclare, et c'est là que Jésus opère la bascule, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Alors ça a dû être vraiment désagréable à entendre. Ces passages, ils les connaissent, et ils ne sont pas capables d'en voir l'accomplissement sous leurs yeux, mais en plus, c'est un autre peuple qui produira les fruits. Dans un royaume de Dieu dont Jérusalem n'est plus obligatoirement le centre, un temple, donc de fait ils ne sont plus les gardiens, vous connaissez l'expression les gardiens du temple, c'est un autre peuple qui produira les fruits du royaume. Et ça nous pose à nous une question première, faire partie du royaume. Quel est cet autre royaume qui n'a pas besoin de démonstration de force ? Jésus nous éclaire là-dessus. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter ? Il en est de lui comme d'une graine de moutarde lorsqu'on la sème dans la terre. C'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. Le royaume de Dieu n'est absolument pas une démonstration de puissance. Il est invisible au début, aussi discret qu'une graine de moutarde. Il ne manque pas de puissance. Mais il va finir finalement par abriter beaucoup de monde, les oiseaux du ciel. Seulement, sa croissance ne se fait pas au prix de la domination. Alors que nous voyons cela tous les jours autour de nous, dans les relations entre pays, dans les relations entre partis politiques, etc. Il n'y a pas de domination dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu qui s'approche de la terre, c'est d'abord un bébé, qui arrive dans toute sa vulnérabilité, insignifiant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand plus personne ne considère le temple comme le lieu de la rencontre avec Dieu, alors Dieu se propose sous un jour beaucoup plus familier aux hommes, sous l'apparence d'un enfant. Et le royaume de Dieu, dès ce moment, s'est approché, et personne ne le sait encore. Et puis ce royaume s'étend chaque fois qu'un être humain comprend qu'à travers ce petit enfant vulnérable, puis à travers cet homme vulnérable, et encore à travers cet homme condamné et crucifié, mais ressuscité, c'est Dieu qui est venu renouer la relation avec lui. Le royaume de Dieu s'étend quand cet humain accepte et désire cette relation. Et cet être humain fait partie désormais de ce fameux autre peuple appelé à produire les fruits du royaume. Alors ça nous pose une question tout de suite. Produire les fruits. Dans une vision productiviste qui est celle qui domine dans notre environnement moderne, produire du fruit dans nos églises, ça pourrait être facilement assimilé à faire du chiffre. Il y a différentes traductions de cela. Croissance numérique des églises, croissance de leur impact sur la société, croissance de leur prospérité, voire de leur richesse. Et nous avons à l'œuvre aujourd'hui dans notre monde des églises à la recherche de ça. Le but est de devenir une méga church, 5000 personnes. Ah, si on pouvait être à 10 000. On voit les ravages que ça fait, cette façon de penser, dans des pays aujourd'hui, je pense au Nigeria. Nous avons des méga churches mais qui partent dans des directions totalement folles. Totalement folles. Alors nous savons à quel point la vision aujourd'hui dominante fait passer la question du mesurable et du nombre au premier plan, et le véritable royaume invisible de Dieu au second plan. Il faut des démonstrations aujourd'hui pour exister. Jésus, combien de followers sur Instagram ? Alors, produire du fruit, ça peut être notre obsession. Parfois, je veux être utile et ça part d'un bon sentiment. Il faut que je produise du fruit, absolument. Porter du fruit dans la vie chrétienne, ça ne consiste pas à faire des œuvres ou à tenter de se rendre juste par nos propres forces. Ça ne consiste pas à essayer de construire un temple encore plus haut, encore plus grand, sur je ne sais quelle montagne. Pour produire du fruit, et c'est Jésus qui nous l'enseigne, il faut être capable d'en produire. Et pour être capable d'en produire, laissez l'Esprit du Christ nous transformer. Il n'y a pas d'ailleurs de meilleure image, même si on a tellement l'habitude de le lire, mais il faut toujours le relire avec un œil neuf, que celle que Jésus laisse lui-même à ses disciples. Moi, je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les purifie afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, dit-il aux disciples, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. C'est quand même clair. Il n'y a pas de texte plus clair, je pense, que cette image du plant de vigne et des sarments. Le fruit que nous produisons, en fait, il est directement lié à la connexion qui est la nôtre avec la pensée de Jésus, avec l'Esprit de Dieu. Et les sarments constituent finalement la prolongation du plant de vigne, et ce sont eux qui porteront à la saison les grappes de raisin. Et la conséquence de cette connexion avec l'Esprit de Dieu qui était en Jésus, c'est que nous pouvons alors développer ces raisins particuliers. Ces différentes dimensions que Paul énumère et que vous connaissez, la fameuse liste des neuf dans l'Épître aux Galates, le fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et si ce fruit-là est ce fruit que nous donnons dans toutes ces dimensions, ça veut dire que nous avons laissé couler en nous la vie qui monte du plant de vigne. De toute façon, nous ne pouvons produire que ce que nous laissons l'Esprit de Dieu produire en nous. C'est ça la question. Est-ce que nous le laissons produire en nous ? Comme Jésus le dit par ailleurs, on ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendange pas de raisins sur les ronces. Bon sens. Ah, tiens, des figues. On avait presque oublié notre figuier de tout à l'heure. Mais non, pas tout à fait. On va en venir au dénouement de cet épisode. On a déjà lu ce passage. Le troisième jour, donc, ils repartent de Béthanie à Jérusalem. On avait vu cette série d'allers-retours. Et après cette deuxième journée qu'on a qualifiée de mouvementée tout à l'heure, Jésus était rentré de nouveau à Béthanie pour dormir avec ses disciples. Et puis décidément, la table de Marthe est quand même est bonne. Et il repart avec eux à nouveau au matin vers Jérusalem et le temple. Et c'est Pierre qui remarque que la parole de Jésus adressée au figuier a eu son effet. « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » C'est un peu comme si Pierre disait à Jésus, ben ça a marché finalement. Il révèle quoi par là ? Qu'il n'y croyait pas trop. Et le texte de Marc dit bien que lorsque Jésus parlait aux figuiers la veille, ils entendirent. Mais avec tout ce que vivent les disciples durant ces journées, c'est quand même assez perturbant et difficile à comprendre et à assimiler. Non, Je suis de ceux qui pensent qu'ils n'ont pas vraiment cru que ce figuier se dessécherait. Alors, c'est là effectivement que c'est toujours intéressant, Jésus saisit l'occasion. Et il saisit l'occasion de montrer que ce qui est en jeu désormais pour eux, les disciples, c'est le fait d'arrêter de douter et de passer à un nouveau registre, au registre de la foi. Les temps sont en train de changer. Voici venu le temps de faire confiance à l'action de Dieu dans ce monde. Cette action, elle devient à nouveau possible, alors que la sclérose du temple donnait à penser que tout était fichu. Et un nouveau temps de l'histoire est en train de s'ouvrir. Et voilà ce que dit Jésus. Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu, vraiment je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes. » Et puis ce texte entrecroché qui n'est pas dans tous les manuscrits, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Que dit Jésus? Vous avez vu le figuier desséché? Désormais, vous pouvez croire. Ayez la foi en Dieu. Voilà ce qu'il dit. Ayez la foi en Dieu jusqu'à déplacer des montagnes. Alors, est-ce que c'est utile de déplacer des montagnes? Pas vraiment. Mais je crois que Jésus suggère par là l'idée que la confiance peut aller très 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 loin en Dieu, jusqu'à l'inimaginable. Alors, certains commentateurs disent que quand Jésus dit cela, il fait allusion à la colline, Béthanie, Jérusalem, c'est 3 kilomètres, il n'est pas impossible que l'on voit la colline depuis Béthanie, au loin, et que donc c'est un peu l'annonce de la chute prochaine de cette montagne, Sion, sur laquelle effectivement trône le temple. Bon, est-ce que c'est cela ou pas? Ce n'est pas vraiment utile de trancher. Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est de laisser les chemins rituels du temple et de marcher dans les chemins de la foi. C'est ce qu'il nous faut retenir sans doute ce matin, dans la confiance d'une parole de Dieu qui, quoi qu'il arrive, s'accomplit. 40 ans plus tard, le temple de Jérusalem sera rasé. Le figuier desséché, c'est qu'une image, un signe qui nous parle, comme nous venons de le voir, du royaume de Dieu et du fruit que nous pouvons y produire. Et d'une certaine façon, c'est ça l'essentiel. Et pour finir, alors, songeons à la surprise qui serait celle des disciples aujourd'hui, à qui on paierait un tour du monde en avion, pas très écologique, mais admettons, pour aller visiter les communautés chrétiennes un peu partout, sous toutes les latitudes. Que diraient Pierre et ses compagnons, qui ont à moitié cru au figuier desséché? Que le grain de moutarde a décidément bien grandi, au point d'abriter sous ses feuilles beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui. Amen.